Nicolas Heller, vous êtes le directeur de l'Institut Goethe à Paris, mais surtout le directeur des instituts Goethe en France, et en particulier celui de Lille en ce moment. C'est vous qui assurez la direction du Goethe Institut à Lille. Merci d'avoir accepté ces quelques minutes pour répondre aux questions de radio dans le cadre justement de la journée de l'amitié franco-allemande qui aura lieu demain.
Avec grand plaisir.
Alors parlons du Goethe Institut justement. On sait que effectivement dans le monde entier, il y a différents instituts culturels implantés un peu partout pour justement répandre la culture du pays en question. Là, en l'occurrence, le Goethe Institut, c'est justement pour permettre à la culture allemande de se diffuser dans les pays du monde entier. Donc, si je comprends bien, finalement, le Goethe Institut, ça n'est pas que en France, et on viendra bien évidemment sur les spécificités de cet établissement en France, c'est dans le monde entier, finalement.
Absolument. Le Goethe Institut, c'est l'institut culturel de l'État allemand à l'étranger. Ça fait partie de notre diplomatie culturelle. On est présent, là c'est un grand réseau avec 157 instituts dans presque une centaine de pays. Et ça, avec un gros réseau en France, parce qu'il y en a 6 instituts en France qui soulignent l'importance de l'amitié franco-allemande et l'échange entre nos deux pays, parce que le Goethe Institut, non seulement, effectivement, veut faire connaître l'Allemagne et notamment aussi la langue allemande, mais pas seulement dans une sorte de présentation. Notre principe, c'est le travail en commun avec nos partenaires sur place, de créer des projets ensemble, de créer des projets d'échange, de connaissances interculturelles, pour que ça ne devienne pas juste une présentation, mais une vraie coopération, une vraie coproduction. Et c'est pour ça qu'on est implanté ici en France, dans 6 villes, à Paris, à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nancy, et bien évidemment dans cette belle ville de Lille.
Et justement, pour comparer un petit peu, vous dites qu'il y a 6 sites en France. En moyenne, dans les autres pays, il y en a combien des sites pour qu'on se représente un petit peu vraiment l'importance que peut avoir l'Institut Goethe en France et donc les relations franco-allemandes?
Je dirais, si vous regardez dans les grands pays, normalement, il y en a, dans un pays, normalement, il y en a un. Dans les grands pays, 3, 4. Mais là, vraiment, je pense, en France, vous avez le réseau le plus dense dans le monde, parce qu'au-delà des 6 instituts, il y en a encore 2 antennes à Strasbourg et à Marseille. Donc en tout, on est présent dans 8 villes, ce qui crée un réseau avec une grande densité. Pour comparer cela avec les États-Unis, il y en a 5 seulement aux États-Unis. Donc voilà, ce qui souligne aussi l'importance de la France. Mais je veux dire, on a une vision aussi, pas seulement nationale, hein. On travaille avec un esprit, je dirais, très européen. Donc, il n'y a pas juste nos relations bilatérales qui comptent, mais vraiment le travail en réseau aussi entre les différentes nations et les différentes régions où sont présents des Goethe-Instituts, parce que c'est ça qui est important pour nous derrière. C'est vraiment cet échange international un peu partout dans le monde, certainement de l'Allemagne vers le monde, mais aussi entre ces différents pays, ça nous tient très à cœur.
Bien entendu, et d'ailleurs on pourra parler un petit peu plus en détail de cette importance du travail finalement de l'Allemagne avec ses partenaires européens notamment, et bien entendu la France, parce qu'on parle souvent de couple franco-allemand, mais ça, on va laisser ça pour tout à l'heure. À noter quand même que vous êtes présent en France, le Goethe Institut est présent en France depuis 1957. Est-ce que la France est un partenaire historique et privilégié finalement pour mettre en place les instituts Goethe, ou voilà, est-ce que comment on peut expliquer finalement cette antériorité vraiment très importante? Ça fait quasiment plus de 60 ans finalement que les instituts Goethe sont présents en France.
Bien évidemment, regardez dans l'histoire, dans les années 50, il y a une grande volonté, notamment aussi ce qui fait la preuve du traité de l'Élysée de 63, mais bien avant, entre la France et l'Allemagne, de se réconcilier, de rebâtir un nouveau futur ensemble, et la diplomatie culturelle, l'apprentissage des langues, la connaissance de la culture de l'autre, mais aussi la connaissance et de voir ce qui a changé en Allemagne après les horreurs de l'époque nazie. Je pense que c'était ça qui souligne ces relations très privilégiées entre nos deux pays. Et 57, vous avez cité la date, c'est à Lille qui s'est créé le premier institut en France. Paris est venu un peu plus tard, en 62, et petit à petit s'est créé ce réseau-là. Mais dans cette volonté de réconciliation, mais aussi du point de vue allemand, notamment aussi de montrer, de faire preuve en France, de faire comprendre cette jeune Bundesrepublik, cette jeune République fédérale, basé sur la liberté d'expression, basé sur la liberté de la culture, des arts, sur les droits des hommes, et pour faire connaître cette autre Allemagne après ces horreurs du XXe siècle qui malheureusement nous sommes tous connus.
Justement, vous parlez de la République fédérale d'Allemagne, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, en 57, l'Allemagne était coupée en deux, RFA, RDA, donc finalement, à ce moment-là, effectivement, l'Institut Goethe mettait en avant donc la culture allemande, mais la culture allemande de l'Ouest, finalement, et la culture allemande de l'Est, quand tout s'est mélangé, j'imagine que ça, c'est un peu plus tardif, et même peut-être qu'encore aujourd'hui, on a peut-être un petit peu de mal à appréhender ce qui peut se passer en Allemagne de l'Est. Est-ce qu'il y a une différence ou finalement, ben, c'est mélangé quand même, et la chute du mur de Berlin, etc., tout ça, ben, ça n'a pas eu tant d'incidence que cela. Est-ce que quand même on peut avoir cette réflexion au niveau historique ou pas du tout?
Moi, je penserais pas, parce que si j'ose dire, je pense que le Goethe-Institut a mis en avant toujours, a essayé de mettre en avant toujours aussi la globalité et la diversité de la culture allemande jusqu'aujourd'hui, où en fait on montre aussi les cultures qui sont arrivées un peu plus tardivement en Allemagne. On fait pas seulement, et ça c'est notre but, on présente pas seulement Goethe, Schiller et Kant, mais justement cette jeune culture allemande, cette jeune culture contemporaine qui est aujourd'hui très diverse, très coloriée. Donc ça c'est très très important de mettre en avant, et à l'époque, je pense à l'époque RFA, RDA, on a réussi aussi à cela, de montrer la complexité, aussi la diversité aussi d'un pays divisé. Je pense que le Goethe-Institut, ça c'est le grand avantage, et il faut le souligner, le Goethe-Institut est financé en deux tiers par l'État allemand, mais c'est une institution de société civile, on est une association. Donc l'État allemand a confié, si j'ose dire, la tâche de la diplomatie culturelle à une association indépendante. Donc c'est-à-dire c'est le Goethe-Institut de manière indépendante qui crée son programme et peut dire, si j'ose dire, aussi ou exprimer la complexité, aussi peut-être les grandes controverses en Allemagne. On n'est pas là pour faire de la pub de l'Allemagne, on est là pour faire comprendre l'Allemagne contemporaine aussi avec ses problèmes, ses complexités, et de mettre ça en relation avec nos partenaires sur place, notamment ici en France, et je pense pendant toutes ces décennies. C'est le Goethe-Institut, c'est une Erfolgsgeschichte, comme on dit en allemand, une histoire de succès, justement, de créer un véritable lien authentique d'échanges et de compréhension entre nos deux pays.
Et c'est absolument passionnant, en effet, et d'ailleurs, vous faites bien de préciser tout ça, ça clarifie vraiment les choses. On peut rentrer maintenant un peu plus dans le détail des missions, finalement, du Goethe-Institut, vous l'avez dit, hein, promouvoir la culture allemande et avoir des coopérations, justement, entre les différents États. Spontanément, quand on pense à coopération franco-allemande, en l'occurrence, on pense, en tout cas, pour ma part, quand j'y ai pensé du premier coup, ça m'a évoqué les voyages, en tout cas les échanges que peuvent faire les lycéens, les collégiens, même les étudiants à l'université entre eux, enfin en tout cas les différents établissements, ces échanges culturels, ces échanges d'éducation justement entre eux. Est-ce que ça c'est peut-être, dirons-nous, ce qui est le plus visible finalement, parce que oui, en termes de coopération et dirons-nous d'échanges franco-allemands, bah, c'est le fait d'aller voir ce qui se passe finalement qui est le plus pertinent et peut-être le plus intéressant pour les personnes concernées, notamment les jeunes. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus?
Je pense certainement ces échanges de jeunes, c'est ça qui a profondément marqué nos deux pays. D'ailleurs, c'est le grand résultat du traité de l'Élysée de 63 entre De Gaulle et Adenauer, cette création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, institution formidable qui organise ces échanges de jeunes. Mais en même temps, il faut souligner aussi, ça, c'est une partie de cette amitié franco-allemande, parce que ça se joue pas non seulement de manière ponctuelle lors des échanges qui sont très formateurs au niveau de l'expérience, mais ça se joue aussi dans le quotidien de chacun. Vous voyez, c'est ça le principe du Goethe-Institut, la raison aussi pourquoi on est là avec un réseau basé avec des instituts dans les différentes villes. d'être présent dans le quotidien de nos pays d'accueil, notamment ici en France, de montrer dans le quotidien, de faire comprendre, de faire passer la langue allemande, mais aussi par des manifestations culturelles, la richesse de la diversité de la culture allemande, dans toute sa complexité, je le disais, mais surtout aussi, et c'est ça la grande partie de notre mission, de voir avec les partenaires qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Vous voyez, avec des théâtres, créer des résidences, avec, je ne sais pas, des musées, concevoir des expositions ensemble. Vous voyez, c'est vraiment dans un esprit d'être là, dans le quotidien, ici en France, et de pouvoir coproduire, co-créer, co-penser des projets culturels et linguistiques ensemble. D'où la nécessité, et je pense que c'est ça qui, on est bien conscient, vu un peu la remontée un peu des réflexes nationalistes un peu partout en Europe, on crée en quelque sorte les Goethe-Institut avec tous les autres partenaires européens sur place, on crée dans le quotidien toujours une petite ouverture vers l'Allemagne, mais surtout vers la diversité européenne, et c'est ça à laquelle on est attaché profondément.
Effectivement, et notamment le Goethe-Institut, vous le dites, hein, promouvoir donc la culture, la langue allemande, etc. Ça veut dire qu'effectivement, quand spontanément on peut être intéressé par la culture allemande, par ce pays, par cette langue, mais que éventuellement on n'a pas la possibilité autour de soi, et je peux penser notamment à l'école, hein, certains collèges, certains lycées n'offrent pas de cours d'allemand. En revanche, le Goethe-Institut, ça c'est une partie, bien entendu, on reviendra sur davantage de coopération au niveau global tout à l'heure, mais le Goethe-Institut, peu importe où il est, dans les villes où il est implanté, donc Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Toulouse, Strasbourg et Marseille, eh bien, peut justement proposer des cours d'allemand en plus d'expositions et d'autres événements culturels.
Absolument, absolument, les cours sur place, mais et c'est ce qui a été renforcé pendant la pandémie, mais aussi des cours en ligne. Donc là aussi, vous pouvez faire des cours n'importe où en France en profitant de l'offre de cours du Goethe-Institut en ligne. Évidemment, nos cours présentiels dans les différentes villes, mais aussi surtout de n'importe où en France, vous pouvez faire des cours excellents d'apprentissage de la langue allemande par notre réseau en ligne, par nos offres en ligne qui sont dans un moment où tout le monde est un peu en retrait. On ne sait pas actuellement comment cela va évoluer. Et toujours une possibilité, en dehors ou indépendamment de d'où on se trouve en France, de profiter de cette offre linguistique qui nous est chère. Parce que peut-être deux mots par rapport à ça. On est profondément persuadé et convaincu que la langue, l'apprentissage d'une langue, c'est effectivement un atout aussi économique. On ouvre des voies de carrière, notamment avec l'apprentissage de l'allemand, les chiffres le prouvent. Mais aussi, c'est un développement d'un autre regard. Il y a une porte qui s'ouvre petit à petit vers une autre culture. Et cette expérience-là, qu'il y a d'autres cultures et d'autres manières de s'exprimer, d'autres manières de voir le monde, je pense que ça, c'est un point qui est absolument crucial dans nos sociétés en Europe, un peu partout dans le monde, c'est le développement de la compréhension de l'autre par la culture et la langue.
Et ça, c'est un point très important que vous soulignez. Je me permets juste une toute petite digression sur le sujet. Justement, vous parlez d'ouverture à l'autre, de coopération, mais finalement, on est dans un contexte, et vous l'avez souligné il y a quelques instants, plutôt de repli nationaliste. Comment vous percevez cette tendance? Est-ce que dans une société telle que l'Union européenne, qui est quand même censée rassembler les peuples, l'Europe des 27, on peut concevoir justement ce repli nationaliste? Est-ce que on change de modèle peut-être vers une Europe où effectivement les États seraient davantage souverains, dirons-nous, et que en même temps, eh bien, on continue à travailler tous ensemble dans une sorte de coopération, mais que quand même l'État serait plus fort que le reste. Est-ce que là, à ce niveau-là, il n'y a peut-être pas aussi un petit souci par rapport aux valeurs qui sont défendues, notamment par le Goethe-Institut, mais aussi l'âme de l'Union européenne, d'après vous ?
Bien évidemment, ça c'est, je pense, le grand défi de l'Europe. Il faut se rendre compte, finalement, c'est quel atout, c'est ce qu'on a réussi à faire au quotidien, c'est-à-dire rendre d'accord les 27 pays membres et effectivement avec chacun leurs intérêts un peu nationaux, ce qui est compréhensible. Mais si j'ose dire, oui, on peut critiquer l'Europe, mais c'est toujours par rapport, quand on regarde dans notre histoire, c'est la construction, la meilleure construction qu'on a trouvée dans l'histoire, marquée par la confrontation, la guerre, tout ça. Cette Europe qu'on peut critiquer, que ça va pas assez loin, et il y a toujours un moment aussi où on fait face à des replis un peu nationales, mais je dirais c'est la meilleure construction qu'on a trouvée jusque-là, et par rapport aux convictions du Goethe-Institut, bien évidemment, c'est notre responsabilité avec, beaucoup, beaucoup de citoyens ici en France, en Allemagne et partout en Europe qui croient profondément à cette idée d'une paix en Europe, d'un échange, d'une curiosité pour l'autre et de l'apprentissage aussi de ce qui peut nous sembler étranger dans un premier temps. Donc, oui, certes, on constate cela que dans différents pays, il y a aussi face à la pandémie, un réflexe un peu national, mais aussi il faut travailler, et ça c'est un peu la tâche du Goethe-Institut aussi, d'autant plus d'acharner à œuvrer pour cette ouverture, pour la curiosité de l'autre et pour préserver ce qu'on a bâti ensemble dans les dernières décennies, c'est-à-dire une Europe en paix, une Europe avec des valeurs communes, et une Europe qui ne se replie pas justement sur elle-même, qui reste... Oui, et aussi le reflet de la diversité de nos sociétés actuelles, ce qui est important à souligner.
D'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé sans doute hein, que, dirons-nous, la paix européenne est un tout petit peu mise à mal avec le conflit russo-ukrainien, en tout cas à la frontière avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Allemagne, il y a très peu de temps de ça, je crois que c'était même hier, a justement précisé qu'elle défendrait la souveraineté ukrainienne. Donc c'est ça aussi quand on parle de coopération. Alors l'Ukraine, forcément, c'est un cas qui est un peu à part, mais quand même, on voit cette solidarité justement pour essayer dans ce bloc européen, même si la Russie en fait partie, on dirons-nous, sur le continent, mais quand même, de justement être solidaire, même avec ceux qui sont en dehors de cette union. C'est ça, justement, aussi, dans toute cette complexité, finalement, qu'est l'Union européenne, et bien de défendre aussi ceux qui seraient menacés, justement, à sa frontière. Ça, c'est une petite digression, mais c'est un sujet qui est aussi important. Et on a vu, justement, je viens de vous le dire, l'Allemagne prendre position sur ce sujet-là.
Oui, mais voyez-vous, il y a ces sujets, je dirais, éminemment politiques. Et il y a aussi une vraie politique étrangère de la société civile. Je pense qu'il ne faut pas oublier nos liens aussi avec ces différents pays. Et je pense que c'est là où une institution de société civile, comme le Goethe-Institut, prend tout son sens. De maintenir aussi des ponts vers de l'Europe, de notre société civile, avec aussi les opinions qui digressent peut-être des régimes autoritaires dans ces différents pays, en Russie par exemple, mais de créer des ponts d'échange de la société civile. On est très engagé aussi en Russie avec nos instituts, par exemple là, en créant des ponts, pas des projets culturels, pas des projets éducatifs, pas des projets linguistiques, d'une jeune génération de Russie avec l'Europe et vice-versa. Il faut rester en contact, il faut maintenir les ponts, il faut maintenir le dialogue, malgré effectivement une réalité qui pour nous tous semble un peu incertaine en ce moment. Mais je pense que ce rôle de la société civile aussi n'est pas à sous-estimer.
Bien sûr, non mais absolument, hein, et vous le démontrez très bien avec le Goethe-Institut. Pour revenir un petit peu davantage sur le couple franco-allemand, cette notion, oui, de couple franco-allemand qu'on utilise beaucoup en politique, et le fait justement que cette amitié franco-allemande forcément soit liée intimement à cette coopération politique-là. On a vu il y a quelques jours que Olaf Scholz, le chancelier allemand nouvellement élu, a dit qu'il ne supportait pas que l'Union européenne, ou tout du moins l'Europe, ne soit pas aussi puissante et aussi respectée qu'avant. Est-ce que là aussi ça démontre bien, et on le sait depuis un moment, que en tout cas en France, eh bien le président Macron souhaite rendre l'Europe forte et compte sur l'appui de l'Allemagne justement pour faire vraiment peser le rôle de l'Union européenne dans le dialogue international sur toutes les questions qui peuvent être posées. On le voit avec la Russie, la Chine et les États-Unis qui prennent énormément de place. Finalement, est-ce le rôle aussi justement de ce couple franco-allemand de prendre les rênes de l'Union européenne pour mener cela vers l'avant, parce que l'Allemagne et la France sont quand même deux des plus grandes puissances, ou tout du moins des leaders en Europe justement et dans l'Union européenne.
Oui, certainement, mais je vais parler pour le secteur pour lequel je m'engage, c'est-à-dire l'échange culturel. Je pense évidemment cet échange, quand vous regardez le couple franco-allemand, c'est assez fort et on l'a démontré dans les dernières décennies l'importance aussi de ces échanges-là, ce qu'on a pu bâtir ensemble en Europe par les liens forts aussi dans le domaine de la culture entre nos deux pays, mais il faut le dire aussi, il faut rendre compte d'une complexité multilatérale et aussi dans la réalité de notre travail en tant qu'institut culturel. C'est-à-dire, certainement, il y a un grand besoin d'explication, de transmission d'informations, d'expériences entre nos deux pays, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Mais aujourd'hui, à une époque, on devrait et on doit réussir, c'est la conviction du Goethe-Institut, de démontrer aussi la richesse européenne, en ne pas seulement se limitant seulement sur le couple franco-allemand, mais en intégrant tous ces différents points de vue un peu partout en Europe. Certes, je pense la France et l'Allemagne et notre histoire d'amitié peut faire preuve et peut être un laboratoire pour nos liens avec les différents pays en Europe, parce que finalement on a fait preuve de ce qu'on peut réussir ensemble avec une vraie volonté d'échange, d'amitié après des expériences de guerre et de profondes confrontations. Mais aussi, et ça me tient très à cœur, les échanges franco-allemands ne sont pas exclusifs. Il faut les ouvrir, il faut avoir une curiosité. Je pense que ça devrait être une base pour élargir nos liens. Et pas pour nous, c'est une vraie tâche au quotidien, au Goethe-Institut, de faire preuve non seulement de ce travail entre la France et l'Allemagne, mais aussi d'intégrer régulièrement d'autres points de vue européens pour enrichir le regard et pour démontrer cette diversité, je le disais, de ce grand miracle qui est actuellement l'Europe. Et malgré tous les critiques, voilà, je le disais ça aussi, la meilleure construction qu'on a su faire, quand vous regardez pas seulement les dernières décennies, mais toutes ces histoires d'Europe, jusqu'au Moyen-Âge, profondément marqué plutôt par des confrontations. C'est ça que je viens souligner. La France et l'Allemagne et le franco-allemand, un vrai laboratoire pour développer des projets futurs, mais toujours en pensant et en s'intégrant d'autres points de vue pour ne pas rester justement à des partenaires exclusifs et fermés.
Alors justement, après toutes ces grandes considérations, ces grandes notions que l'on vient d'explorer, concrètement, comment justement ça se concrétise, j'ai envie de dire, c'est un pléonasme, mais c'est l'idée, vraiment, comment ça se concrétise justement, alors en France, mais aussi du coup à l'étranger, cette construction, ces relations entre le Goethe-Institut et les différents pays. Et forcément, parce qu'on est dans ce cadre de la journée de l'amitié franco-allemande, évidemment, en France, vous avez parlé en effet des échanges, vous avez parlé de votre implication, mais finalement, si on devait retenir et si on pouvait donner quelques exemples de d'initiatives qui sont faites sur le territoire, quelles sont-elles? Qu'est-ce que l'on peut retrouver finalement comme animation, comme initiative réalisée par le Goethe-Institut en termes d'activité?
Regardez, actuellement, je vais partir de Paris et puis je vais arriver à Lille. À Paris, on vient d'ouvrir, vous le savez peut-être, la Commission européenne a déclaré 2022 comme l'année européenne de la jeunesse. Et on vient d'ouvrir ici une exposition sur le monde de jeunes, c'est-à-dire la réalité des jeunes pendant la pandémie. C'est quoi la réalité des jeunes souvent dans la pandémie? C'est leur chambre chez eux, parce que souvent ils sont confinés chez eux, ils peuvent pas vraiment voir leurs amis, aller régulièrement à l'école, tout ça. Donc ici, il y a une grande exposition qu'on a réalisée avec des partenaires qui s'appelle In My Room, dans ma chambre, qui montre, et ça je tiens à dire, non seulement des jeunes, je dirais, allemands ou français, mais des jeunes de partout d'Europe, mais aussi d'Asie, pour avoir ce regard un peu élargi vers le monde et pour démontrer cette diversité-là. Et je pense que ça, cette approche-là, ça c'est un exemple qu'on peut citer pour cette direction que nous, Goethe Institut, nous défendons et que nous voulons présenter, c'est-à-dire pas seulement le regard ouvrir une fenêtre vers l'Allemagne, mais en tout cas au moins vers l'Europe et dans le cadre de cette exposition, par exemple, vers le monde. Après, j'aimerais bien citer une deuxième exposition parce que qui est magnifique et qui va ouvrir mercredi prochain, le 26, à Lille, ce qui montre aussi que non seulement on organise, je dirais, des événements culturels autour des scènes culturelles en Allemagne, mais des vrais enjeux, je dirais, aussi sociétals. Parce qu'on a voulu ouvrir une exposition « Kannst du Fahrrad fahren ?» Est-ce que tu sais rouler à vélo? Et là, on se pose la question avec des différents designers et des illustrateurs. Ils ont dessiné la réalité de faire des vélos en Allemagne, mais aussi en Italie. C'est-à-dire, ces dessins-là ont été créés dans le cadre d'un concours pour une mobilité durable et pour une révolution de notre mobilité, ce dont on a besoin si on veut préserver notre planète. Et cette exposition qui s'est créée entre la France et l'Italie, à l'occurrence, ça sera montré mercredi prochain à Lille. Donc, voyez-vous, des enjeux qui nous touchent tous, c'est-à-dire cette révolution de mobilité dont on a besoin, mais avec un regard, pas entre la France et l'Allemagne, mais un regard européen, là, à l'occurrence, entre l'Allemagne et l'Italie. Et je peux seulement vous inviter à voir cette exposition, ça aura lieu dans la maison de Folie Voisem.
Effectivement, merci beaucoup pour tous ces détails et toutes ces informations. Nicolas Heller, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Goethe de Paris, mais surtout directeur des Instituts Goethe en France, sur l'ensemble du territoire, et en particulier celui de Lille en ce moment. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre aux questions de radio dans le cadre, justement, de cette journée de l'amitié franco-allemande.
Comme on dit, vielen Dank, merci beaucoup.
Eh oui, j'allais dire Dankeschön d'ailleurs, und auf Wiedersehen.
Bis bald, à bientôt.